Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Avouez-le, avouez-le, on est tous fascinés par les histoires de mafia et de crime organisé. Je veux dire, tous, on a tous vu Le Parrain, je sais pas combien de fois, Goodfellas, Donnie Brasco, on les a tous vus ces films-là. Et là, c'est du bonbon, un livre signé Félix Séguin, Éric Thibault, La Source, sur, mon Dieu, les coulisses de la mafia italienne, ici même, parce que Félix a été le confident d'un chef intérimaire de la mafia italienne. Donc, Félix et Éric ont écrit un livre ensemble, mais à partir de demain, on pourra voir un documentaire qui a été fait sur cette histoire-là, Scopa et moi, sur le Club Illico. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Richard.
Salut Éric et Félix, vous êtes là, donc La Source, un livre absolument passionnant. Le gars que tu as rencontré, Félix, là, et dont tu l'as rencontré à de nombreuses reprises, t'es même allé en Espagne avec lui pour recueillir ses confidences, Andrew Scopa, il était chef intérimaire de la mafia. Je savais pas que la mafia avait des chefs intérimaires. Il était le Pascal Bérubé de la mafia italienne, c'est ça?
Ben, ça a été un peu ça pendant une période de temps qu'on l'a rencontré, Richard. Oui, parce que quand la mafia, comme tu sais, a horreur du vide, perd l'un de ses chefs, qu'il est emprisonné, ou dans le cas de Vito Rizzuto, emprisonné à Florence au Colorado, ou d'autres arrêtés dans des opérations policières, il y a un vide secret, et un autre les remplace de manière intérimaire. Alors, il y a une structure hiérarchique qui, si tu veux, par les luttes aussi de pouvoir permet ça. Et Andrew Scopa, pendant un bref instant, a été cette personne-là. Moi, Andrew Scopa, je l'ai rencontré à fin 2013, début 2014. Pendant 6 ans, il devient une source que je consulte très régulièrement pour comprendre comment ça fonctionne dans le monde mafieux, parce que j'avais un intérêt marqué pour ça. Puis, évidemment, des sources dans le monde interlope de cette qualité-là, il y en a peu qui parlent ou pas. Ça s'est pas fait presque de mémoire de journaliste, même mondialement, parce que des mafieux en exercice qui brisent comme ça l'omerta, il y en a, trop de droits dans une main pour les compter. Et puis finalement, tout ça, on embarque mon fidèle partner, Éric, avec qui on fait tout ensemble, c'est ces couvertures-là, puis on décide de lui proposer d'aller en Espagne pour écrire un livre sur. Au fond, sa vie, ses confidences, ses secrets, puis il a dit oui, comme ça. Et voilà, on est allé 2 fois en Espagne pour compléter et le livre et le tournage du documentaire.
Éric, la loi de l'omerta s'applique à la mafia, mais s'applique aussi aux journalistes. Hein. Il ne faut pas dévoiler sa source. Qui savait que vous aviez des contacts, les deux, avec un chef de la mafia autour de vous? J'imagine il faut vraiment limiter au minimum les gens à qui on se confie.
Ouais, t'as raison, Richard. Aujourd'hui, là, c'est la fin de en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la fin d'à peu près une quinzaine de mois de vie en secret. Hein. On a gardé ces confidences-là en secret. On en a parlé à presque personne. C'était un cercle très, très fermé de gens qui essentiellement, c'est des gens de notre cercle professionnel,
ben oui.
Nos patrons, notre éditrice qui était au courant, et même notre famille, on n'en parlait pas. Parce que c'était, il y avait des enjeux de sécurité, là. Il faut en être conscient. Ce qu'on a, évidemment, Andrew Scopa, quand on est allé en Espagne avec lui, c'est à l'été 2019. Et là, il s'est fait tuer en octobre 2019, le 21 octobre, la journée de la fête de Félix.
Et ouais, méchant ouais, cadeau.
Méchant cadeau, oui. Puis et là, on avait tout le matériel pour écrire le livre, sauf qu'on savait qu'on ferait pas ça du jour au lendemain. Et évidemment, ce qu'on a eu comme confidence de Scopa, qui était exceptionnel, parce que on le sait là, ça n'arrive pas là, avoir une source dans le milieu de la mafia de haut rang comme ça. Alors là, il fallait se mordre la langue puis garder ça pour nous, parce que évidemment, il y a certainement des, on pense qu'il y a des gens dans le crime organisé qui aurait peut-être pas aimé ou voulu qu'on diffuse, qu'on publie ce genre de confidences.
Ben oui, c'est donc il y avait des enjeux de sécurité. Puis Félix, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi un haut placé de la mafia italienne sentait le besoin de se confier à des journalistes?
Ben là-dessus, je me replace dans cette maxime. Je me redis la maxime à laquelle je pense tout le temps lorsqu'il est question de journalisme d'enquête, puis de journalisme en général. Toutes les personnes qui te parlent ont un but oblique. C'est à toi de départager le vrai du faux et ce qui est d'intérêt public aussi, c'est ce qui ne l'est pas. Dans le cas d'Andrew Scopa, nous pouvons l'affirmer. Les policiers également qui le connaissent peuvent l'affirmer. C'était un homme qui était extrêmement planificateur et même s'il n'a aucune éducation, d'une intelligence, ma foi, remarquable, un peu à la Wayne Gretzky, il voyait deux passes devant où la rondelle était pour se retrouver. Et il y avait peut-être un peu de ça là-dedans. Parce que, évidemment, c'est Eric qui nous faisait penser à ça aujourd'hui. C'est pas tous les criminels qui aiment se retrouver dans le journal, mais tous les criminels lisent le journal. Alors, même chose pour Andrew Scopa, il aime pas se retrouver dedans, mais si il a le pouvoir de nous donner des informations qui nous permettent de faire des articles, lui qui pensait-il, pouvait, disons, dévier l'attention de sa propre personne. Il pensait qu'il gagnait, j'imagine, mais il n'a pas gagné.
Lui disait, je vais utiliser les médias à mes fins. Là. Mettons, s'il voulait semer la pagaille dans un clan particulier, passer un message, etc., il a dit, bon, je vais utiliser les journaux par l'entremise de ces deux journalistes-là.
Ben, tu sais, moi, j'ai jamais su son but ultime à ce qu'on pas dans ça, mais je pense que c'est une question de ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. La question de la vanité, c'est la seconde. La question de la vengeance, c'est la troisième, parce que il règle des comptes aussi avec ses ennemis. Là, il a été c'était métal sur métal, lui et le clan de Solletuto Rizzuto à la toute fin. Alors voilà, il y a peut-être un peu de cela dedans.
Comment s'est fait les premiers pas, en fait? Là? Qui a contacté qui? Comment c'est arrivé que vous avez rencontré Scopa, que tu as rencontré Scopa, Félix?
Ben, c'est moi d'abord qui cherchais à me faire une source dans ce milieu-là, puis c'est des policiers qui nous ont mis assez ironiquement en contact avec lui, des policiers qui le connaissaient, parce qu'Andrew Scopa naviguait toujours entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il fournissait de l'information à la police également pour se faire... pour être à la limite protégé d'une certaine façon, de certaines enquêtes. Et puis, donc, on me l'a présenté. Puis la première fois que j'ai rencontré, c'était dans un hôtel dans le quartier Griffintown, à l'hôtel Alt. J'avais loué une chambre, laissé une carte à la réception au nom de Scott. C'est les instructions qu'il m'avait données. D'ailleurs, quand j'ai laissé la carte et j'ai dit cette carte-là à la réception, et puis c'est Monsieur Scott qui va venir me rejoindre dans 15 minutes. On m'a fait un petit sourire en coin. Et finalement, Andrew Scopa arrive. C'est la seule fois que je l'ai vu armé. Je pense qu'il y avait un effet de toge là-dedans. Il dépose son pistolet sur la table de salon, si tu veux, la courte table, la table basse. Et il m'a dit, are you impressed? Est-ce que tu es impressionné?
Ben, voyons.
Et je n'ai eu d'autre choix que de répondre oui. Et là, de fil en année en année, moi, j'ai continué justement à rencontrer Andrew Scopa jusqu'au moment où je demande à Eric d'entrer dans la danse et puis Eric se fait pas prier pour le faire d'ailleurs, il dit oui tout de suite.
Are you impressed? Ok, le gars quand même était assez vaniteux, assez narcissique. Eric, on a tous vu Donnie Brasco, l'histoire d'un agent du gouvernement qui infiltre la mafia, qui devient comme ami avec un des chefs de la mafia qui est joué dans le film par Al Pacino et il y a des liens d'amitié. Et à la fin, quand c'est le temps de le dénoncer, Donnie Brasco, le policier, il a lié des liens avec tout ce temps-là, avec le gars, tout ça. Donc, comme journaliste, vous avez passé du temps avec lui, vous êtes allé en Espagne, vous avez bu du vin avec lui, vous avez jasé. Est-ce qu'on vient, peut-être pas des liens d'amitié, mais est-ce qu'il y a des liens particuliers qui se tissent avec un gars comme ça?
Ben, c'était pas des liens d'amitié. Moi, c'était vraiment professionnel. Là. Je m'en allais en Espagne avec lui pour le confesser, là, entre guillemets. Puis il faut comprendre là qu'à ce moment-là, là, Richard, Andrew Scopa, quand il accepte de collaborer par ses confidences, par son expérience, par ses témoignages, quand il accepte de collaborer à notre projet de livre, son frère Salvatore Scopa, qui était un caïd craint et redouté et violent, il venait de se faire tuer par balle là, dans le lobby d'un hôtel à Laval. Ça avait beaucoup fait jaser, ça, au mois de mai 2019. Et Andrew Scopa savait que lui, il vivait peut-être sur du temps emprunté.
OK.
Alors
c'est quasiment son testament, là.
Ben, on peut dire ça, je pense. Et effectivement, là, il y avait besoin de se confier. Il nous a livré là ses états d'âme, sa crainte de mourir, sa crainte de se faire tuer, l'anxiété qui tenaillait ce gars-là. Tu l'écoutais, puis ça donnait vraiment pas envie de faire sa job.
Et Félix, Félix, toi, est-ce que bon, pendant 6 ans, tu lui as parlé, t'as pris des verres avec lui, vous êtes raconté des jokes, j'imagine, etc. Quel genre de lien t'avais avec ce gars-là?
Même chose, un lien extrêmement professionnel. Tu vas comprendre que lui aussi essayait de savoir ce que la police disait de lui. Hein. Puis des fois, il franchissait une ligne que moi j'avais tracée en essayant de me soutirer des informations sur ce que je savais des sources policières, qui m'ont d'ailleurs, entre guillemets, dans le langage policier, essayé. M'ont déjà donné des informations parce que tu dois comprendre que moi, à un certain moment, quand Andrew Scopa est sous le coup d'une filature 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le cadre du projet Estacan, parce que c'est un vaste narcotrafiquant de grande ampleur, puis il est suivi par la police, je suis pris sous filature avec lui. Alors la police sait que je lui parle. Alors, la police essaie de me passer des informations pour voir si je vais lui répéter. Évidemment, je ne l'ai jamais fait. Mm-hmm. Andrew Scopa, quand ma fille est née, ma plus jeune, était en bas de l'hôpital Sainte-Justine, puis il m'attendait avec des pyjamas. Cet homme-là a tenté de s'incruster dans ma vie.
OK, il voulait devenir ton ami, là, comme. Là.
Il voulait devenir mon ami, et j'ai toujours refusé. Moi, j'ai jamais accepté de rencontrer Andrew Scopa les soirs. J'ai toujours rencontré en milieu d'après-midi. Je n'ai jamais pris, à part en Espagne, là, un verre avec lui.
Ah non, OK. Puis il t'appelait à l'anniversaire de tes enfants, il t'appelait à ton anniversaire.
Oui, il m'appelait à mon anniversaire. Il se rappelait de la date d'anniversaire de mes enfants. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu traces une ligne. Tu sais, c'est le mot à la mode. Il faut que tu mettes un plexiglas maintenant.
Ben oui. Et c'est un gars, il faut le rappeler, c'est un gars qui avait du sang sur les mains, non?
15 meurtres dont on le soupçonne, Andrew Scopa. Puis quand son regard change, puis qu'il, comme Éric l'a décrit dans le livre, qu'il adopte le regard de la mort, tu comprends que c'est un tueur. Tu sais que c'est un tueur.
Bon, là, il y a un documentaire qu'on va pouvoir voir à Club Illico, réalisé par Ninon Penneau. Et là, c'est sûr, les gars, là, il y a un producteur qui va vouloir faire un film avec ça, de fiction, là. C'est certain. Est-ce que vous êtes en train de travailler là-dessus?
Non, on travaille pas là-dessus, mais on ne travaille pas là-dessus, mais on est toujours ouvert.
Non, mais c'est une histoire quand même incroyable. Et Félix, toi, pendant 6 ans, t'as gardé ce secret-là quand même. Alors, le livre s'intitule La Source. C'est de Éric Thibault et Félix Séguin. Et le documentaire, c'est à Club Illico à partir de demain. Scopa et moi. Et c'est vraiment une fenêtre ouverte dans un monde extrêmement secret. Et c'est absolument passionnant comme histoire. Donc, merci à vous deux. Merci Félix Séguin. Merci Éric Thibault.
Merci. Salut. Merci beaucoup, Richard.
Salut. Moi, ça ferait un sacré bon film. Qui on pourrait mettre dans le rôle d'Andrew Scopa? Hein? Envoyez vos suggestions.